Voisin avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. C'est le rendez-vous des tchatcheuses. Aujourd'hui, comme chaque mois, je reçois des femmes journalistes de différents continents qui commentent l'actualité. Ana Navarro-Pedro, bom dia, Ana.
Bom dia, Emma.
Journaliste portugaise pour l'hebdomadaire Visão. Eyşe Gülsert, merhaba.
Merhaba.
Journaliste turque, notamment pour l'International New York Times et Newsweek. Paola Martinez Infante, hola, Paola.
Hola, buenos días.
Journaliste chilienne indépendante. On attend aussi Fatima Tawan, la voisine de France 24, journaliste franco-sénégalaise qui présente notamment La Grande Palabre. C'est la tchatch en fait sur France 24. Elle va nous rejoindre dans quelques minutes. Avec vous toutes, mesdames, on va évoquer l'éternel débat sur le voile en France avec notamment un reportage dialogue entre deux mamans d'élèves dont l'une est voilée. On évoquera aussi la révolte citoyenne au Chili ou encore le concert d'Indizara à Istanbul, à quelques heures de voiture de la guerre. Et puis d'autres sujets.
7 milliards de voisins.
Et aujourd'hui, on dit quoi ?
Les tchatcheuses, aujourd'hui, vous avez carte blanche pour nous raconter le monde sous vos yeux ou dans votre cœur. Et on commence avec vous, Paola Martinez, alors que dans votre pays, le Chili, des millions de manifestants sont dans la rue pour protester contre les inégalités, réclamer des réformes aussi d'un système ultra-libéral. Vous êtes venue, Paola, avec une lettre d'amour à l'amour révolté. Donc en fait, vous allez nous parler d'amour ou de révolution ?
Tomber amoureuse, être enchantée, transportée, de qui, comment. L'amour, ce sentiment mystérieux qui nous bouscule, qui nous rend aveugle. Un exquis cocktail d'ocytocine, testostérone, adrénaline, dopamine, qui nous fait planer, désirer et oser.
Combien de lettres d'amour vous avez écrites à l'élu de votre cœur, Paola ?
J'ai écrit des lettres d'amour, oui, avec des résultats relatifs, des réponses enflammées, des réponses confuses et aussi pas de réponses du tout.
Ah oui.
Et oui. Mais aujourd'hui, j'écris une lettre d'amour aux insurgés latino-américains.
Ah oui, vaste projet.
Vaste projet. Aux gens qui se mobilisent par amour de leur terre, leur Pachamama, la mère terre, ceux et celles qui d'une seule voix disent « basta ya », en finir avec tant d'années d'abus et des inégalités. On espère, on aspire à la dignité dans un système écrasant, comme vous le disiez, Emmanuel. Il suffit d'un très peu de degré d'espérance pour causer la naissance de l'amour. Il suffit d'élever les yeux, hausser la voix et occuper les rues.
Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir.
C'est la voix d'Aliende qu'on vient d'entendre.
Sachez que plutôt que vous ne pensez à nouveau s'ouvriront les grandes avenues par lesquelles passe l'ombre libre pour construire une société meilleure. Résonnent encore ces mots des présidents Allende du 73 lors d'un odieux coup d'État dont il a été tué et assassiné. Il espérait que l'homme puisse marcher librement. Aujourd'hui, ces avenues se sont ouvertes partout, en Haïti, en Équateur, au Liban, à Hong Kong, au Chili, en Colombie. Depuis plusieurs mois, une flambée des révoltes embrasse la planète. Autres avaient déjà ouvert la voie en laissant leur vie. Amour pour la terre. Combien sont morts pour cette terre ? Berta Cáceres, Matías Catrileo, Santiago Maldonado et tant d'autres. Parce que oui, on peut mourir aussi en aimant, en défendant sa terre. En 2018, 164 activistes environnementaux ont été tués dans le monde et la moitié en Amérique latine. Aujourd'hui, un état d'ivresse propre à l'amour s'est emparé des révoltes de la planète. Des révoltés de la planète. La science le confirme. Notre première drogue, la plus pure, c'est l'amour. Amour d'un peuple pour le peuple. Aujourd'hui, je déclare mon amour aux Chiliens et Chiliennes qui se sont réveillés d'une longue léthargie. Chile desperto. Il s'est réveillé amoureux de son prochain, conscient de leur destin. Des millions de gens dans les rues défient la forte répression policière. La musique, les sons des casseroles contre les discours des haines, les cris de justice épais contre les coups des matraques et les balles.
Est-ce que pour vous, Paola Martinez, 2019, octobre 2019, restera gravé dans les mémoires ?
Après ces mois d'octobre, plus rien ne sera pareil. Les gens veulent des changements vitaux, une nouvelle constitution, des droits pour tous, une vie digne. Est-ce que c'est trop demandé, une vie digne ? On dit qu'il est amoureux et capricieux, incontrôlable, qu'il nous coupe de l'autre, du réel. Mais ici, on est vraiment dans un élan de solidarité universel, espérant, éternel. Dans ce monde hyper connecté, on ne peut pas ignorer les combats de ces peuples. Et puis on s'est dit que tout est possible puisque les autres le font, qu'on n'est plus seul dans cette casquette, dans cette ardeur héroïque et altruiste pour la cause. On veut du respect, de la dignité pour une société meilleure et en paix. No te rindas, Chile, vamos que se puede.
C'était la lettre d'amour à l'amour révolté de Paola Martinez. Qu'est-ce que vous en pensez, les tchatcheuses et Chigoule ?
Maman, j'ai eu les larmes aux yeux, parce que ça a fait beaucoup écho aussi avec mon pays, ce que vous racontez.
Anna,
c'est tellement inattendu, tellement beau d'avoir cette déclaration d'amour dans un monde de... qui croule sur la haine, sous la haine, que j'en suis très émue.
Et chez Gulcert, alors vous revenez tout juste de la frontière turco-syrienne, mais c'est pas pour parler de la guerre que vous êtes venu ici, mais plutôt pour nous poser une question.
Oui, tout à fait, Emmanuel. Cette question m'est venue à Istanbul, alors que je revenais juste d'un reportage sur la frontière turco-syrienne. Une amie m'avait proposé de l'accompagner au concert de la musicienne franco-marocaine Hindi Zahra. Mmh. Quelques jours plus tard, je repartais vers Paris, avec ça dans les oreilles. Beautiful stranger. Don't wanna know your name. Beautiful stranger. Just wanna take your hand. Un instant, j'ai pu hésiter. Comment pouvais-je assister à un divertissement alors qu'à quelques centaines de kilomètres, la guerre faisait rage? Et c'est peut-être la même réflexion que s'est faite Hindi Zahra en choisissant de venir chanter à Istanbul. Malgré les vives critiques que certains n'ont pas hésité à lui faire sur les réseaux sociaux, la chanteuse a voulu poursuivre sa tournée en s'arrêtant dans cette ville. Sur scène, elle explique que sa patrie est la musique, et cette dernière est sans frontières. Sur le chemin de retour, en traversant les quartiers toujours changeants de mon enfance, me revient en mémoire le nom d'autres chanteurs. Ceux-là même dans les concerts ont suscité polémiques et appels au boycott, dans les pays contestés en termes des droits internationaux. Je pense à Leonard Cohen. Mmh. C'était en septembre 2009 en Israël.
Il y a eu aussi Bob Dylan.
Je pense à Bob Dylan, oui, en juin 2011 dans le même pays. L'un canadien, l'autre américain. Le premier poète avant tout, le second prix Nobel de littérature. Mmh. Ils ont choisi de faire une musique véritablement sans frontières. Ils sont montés sur scène.
Ouais. Et puis à l'inverse, il y a aussi ceux qui ont refusé.
Oui, tout
je
à fait.
Comme John Baez.
Elle a choisi de ne pas donner son concert en Afrique du Sud sous l'apartheid, boycottant ainsi les lois de ségrégation raciale. En fait, si un artiste refuse de se rendre dans un pays où règne l'injustice, n'est-ce pas au final les citoyens de ce pays qu'il punit? Parce qu'il les empêche d'accéder à cette bouffée d'air si précieuse dans les temps de conflit. Alors que j'atteignais la maison familiale, j'ai pensé à Paris, ma ville de cœur, dont la musique a été un soir de novembre criblée d'horreur. Le Bataclan, les tirs de Kalachnikov. Cela fera déjà 4 ans dans quelques jours. Depuis, la musique est revenue, mettant du baume à nos blessures. Alors, je me demande, et je vous demande, un artiste a-t-il un devoir politique? Un artiste ne peut-il pas être apolitique? Le voyage auquel l'artiste nous convie n'a momentanément ni politique ni conflit. Il n'est que mélodie. Ainsi, malgré nos différences de point de vue et de vie, nous cohabitons quelques heures unies. Ce n'était pas le premier concert de Hindi Zahra à Istanbul et ce ne sera sûrement pas le dernier. Ce n'est pas la première ni la dernière guerre que nous voyons à nos frontières. L'art nous survivra et la paix aussi. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Si ce n'est pas demain, ce sera après-demain. Toujours, la musique revient.
Alors, la question pour vous, à 1000 francs, comme on dit, à Navarro Pedro, Paola Martinez, est-ce qu'un artiste a un devoir politique? Est-ce qu'il ne peut pas être apolitique?
Devoir politique, non. Il n'en a aucun. L'art est souvent une forme de réponse ou d'expression sur des questions politiques. Et on peut dire que tout est politique en ce monde, mais il n'a pas à prendre position de façon articulée sur ceci ou sur cela. Mais s'il prend une position, je pense qu'il doit être entièrement respecté pour cela.
Mais la musique est une arme, toujours. Et ça a été, ça l'est aujourd'hui au Chili avec la musique. Tout est transversal. Les gens se réunissent autour de la musique. Donc oui, j'ai dit que oui, qu'un artiste aussi peut être politique. Absolument.
Un concert aux portes de la guerre?
Oui.
Oui, non, pourquoi pas? Pourquoi non?
Aux portes de la guerre? plutôt porteur d'épée, à dire, non, je changerai bientôt.
Non, mais dans le concert, c'est, vous avez commencé comme ça, finalement, Échigul, un concert à quelques centaines de kilomètres, c'est pas non plus aux portes d'Alaguer, mais c'est pas loin.
Mais c'est très symbolique en même temps.
Oui, et il y a une certaine culpabilité que l'on ressent d'être dans un endroit où on entend la musique, où la veille, on entendait les bombes tomber.
Tout à fait.
Elle a été critiquée sur les réseaux sociaux.
Beaucoup, elle a reçu, en disant, comme Leonard Cohen avait été, comme Bob Dylan, d'avoir été donné un concert dans un pays où les droits internationaux ne sont pas respectés.
Ana Navarro-Pedro, ouais. On va vous donner la parole dans quelques instants parce que vous allez revenir sur la récente condamnation par un tribunal français de Sandra Müller, alias Balance ton porc.
7 milliards de voisins
et la planète se barre.
Ana Navarro-Pedro, journaliste portugaise. On aime bien donner la parole à des journalistes de la presse étrangère qui regardent ce qui se passe chez nous et ailleurs dans le monde. Je le disais, vous allez revenir sur la récente condamnation par un tribunal français de Sandra Müller. Sandra Müller, son nom n'est pas non plus devenu international, mais c'est la femme qui a inventé Balance ton porc, cette journaliste qui est à l'origine du mouvement viral sur les réseaux sociaux, l'équivalent français du mouvement américain MeToo.
Je lui ai dit sur un ton ironique après qu'elle m'a dit stop, je lui ai dit dommage, je t'aurais fait jouir toute la nuit. Voilà.
Stop, solidarité avec les femmes du monde entier. Stop, solidarité avec les femmes du monde entier.
Clairement, le message qu'on fait passer, c'est taisez-vous.
Ana Navarro-Pedro, c'est à vous, vous avez la parole.
Eh oui, mais si je souhaite revenir sur une affaire française, sur cette affaire en particulier, c'est pas pour joindre une voix de plus au débat très passionnel qui sévit en France, mais plutôt pour relever ce que l'on voit du dehors, de l'étranger. Et ce que l'on voit de prime abord, c'est qu'un homme qui a tenu des propos dégradants à une femme, c'est sa voix que nous avons entendue au début de ce petit medley sonore, répétant ce qu'il avait dit à Sandra Müller ce soir-là. Cet homme, donc, il fait un procès à la femme qu'il avait ciblée sexuellement. Déjà, c'est extraordinaire. Et il gagne ce procès. C'est ça qu'on voit de l'étranger. Alors, peu importe que les juges se soient prononcés uniquement sur la base de la qualification de l'acte jugé, c'est-à-dire l'harcèlement. Petit rappel, la loi définit l'harcèlement comme un acte répété. Or, cet homme, qui s'appelle Éric Brion, puisqu'il a été nommé, il avait plutôt dit une seule fois cette phrase que nous avons entendue. Ça relève plutôt de la loi sur outrage sexiste. Mais le tweet dénonçant a été assimilé à de l'harcèlement dans le buzz médiatique qui s'en est ensuivi. Et Sandra Müller a peut-être manqué de prudence, parfois, dans le choix de ses mots.
C'est-à-dire « balance ton porc ».
Balance ton porc, et puis elle-même répétant le mot « harcèlement » parfois. Et donc, peu importe les subtilités juridiques maintenant, c'est dissuasif ce jugement. Beaucoup de femmes auront peur à nouveau de dénoncer leurs harceleurs ou agresseurs sexuels.
Cet homme, Éric Brion, a été nommé dans le tweet de Sandra Müller. Et à cause de ça, c'est beaucoup ça qui a été invoqué dans la procédure de justice. Il a perdu son travail, une vie de famille, une certaine mort sociale finalement a été invoquée.
Exactement. Il souligne que sa vie a été détruite, et c'est vrai, et cela pose un autre vaste problème, celui de la haine dans les réseaux sociaux, des jugements, des procès excessifs dans les réseaux sociaux. Mais ce n'est pas pour cette raison qu'il a gagné le procès, c'est par ce petit subtilité juridique qu'il a eu cette victoire. Rappelons-nous que dès son lancement, Balance ton porc a été viral sur les réseaux sociaux. On était en pleine vague mondiale du mouvement MeToo, qui se levait contre les prédateurs sexuels, la parole des femmes se libérait dans le monde. Balance ton porc en a été le déclencheur en France, malgré la violence des mots porc et balance. Fin 2017, le magazine américain Time désigne Sandra Müller comme l'une des 17 personnalités de l'année, au niveau mondial. Et deux mois plus tard, patatras, ce mouvement va rencontrer la résistance française. C'est ainsi, en parlant
c'est
de résistance...
C'est comme ça que vous l'appelez. Hein.
Non, c'est ainsi que la presse mondiale, notamment américaine...
C'est ça, vous êtes la presse mondiale, Ada.
...a ironisé sur une lettre ouverte signée par 100 femmes, dont l'actrice Catherine Deneuve, défendant le droit des hommes à faire des avances aux femmes. Et là, oui, on est dans la vieille image de séduction, la vie en rose, la galanterie française. Et puis, quand la séduction pousse un peu trop loin en France, sur le terrain sexuel, la langue française a un mot pour ça, la grivoiserie. On n'a pas ce mot dans les autres langues.
Attendez, ça n'existe pas en portugais, le mot grivoiserie ?
Non. Et j'ai cherché des traductions dans les langues que je connais, dans celles que je ne connais pas. Les traductions que j'ai trouvées vont de malveillance à méchanceté et pour les plus douces, de malice à impertinence, impertinence en russe. Revenons à ces personnalités-là, celles qui ont signé la lettre. Elles sont établies depuis très longtemps dans l'élite française et elles en deviennent aveugles aux problèmes de femmes qui n'ont pas les mêmes privilèges, des femmes dont le salaire est vital à la maison, ou des femmes qui veulent et qui ont le droit de faire carrière et qui subissent et souffrent en silence des avances au boulot ou dans la rue. La lettre ouverte ouvre alors un débat qui sera et reste très virulent. Cependant, je veux croire, car j'ai toujours aimé l'amour du débat qu'il y a dans ce pays, la France, que ce tortueux cheminement français va vivre vers un vivre ensemble plus respectueux des uns et des autres, saura tracer un jour une ligne entre séduction et abus, entre compliments et outrages, que l'on ne franchira plus qu'à ses risques et périls. Je rêve et je veux rêver.
Bon, bah en tout cas, c'est une sacrée ligne de crête, n'est-ce pas, Ishegul?
Oui, vous avez parlé à un moment de Sarah Müller, qu'elle a perdu, etc. Ça dépend, peut-être que juridiquement elle a perdu, mais socialement elle a gagné. Ouais. Et dans ce débat, je pense que c'est tout, dans cette question, en tout cas, ce qui est important, c'est où est la défaite, où est la triomphe. Et je tout pense fait. Que c'est la femme qui a triomphé là.
Je suis d'accord, et elle le dit, la libération de la parole se fait. Je pense que par contre, le jugement installe à nouveau la peur.
Fatima Tawan vient de nous rejoindre dans le studio des tchatcheuses. Voilà, une quatrième tchatcheuse. Bonjour Fatima,
bonjour,
de France 24,
Emmanuel,
la voisine de France 24.
Oui,
un point de vue là-dessus ou pas, sur l'affaire Sandra Müller?
Sur Sandra Müller, ouais. Oui, c'est
tourner
assez,
sa langue avant d'écrire.
En même temps, je suis assez d'accord avec notre amie, justement, tchatcheuse, parce qu'elle a peut-être perdu une bataille symbolique, mais je pense que dans les esprits, il y aura un avant et un après, balance ton porc et un MeToo. On ne reviendra pas au comportement grivois et autres qu'on a eu l'habitude de voir. C'est-à-dire, ça ne laissera personne, à mon avis. C'est plutôt certains hommes qui
craindront davantage la mort sociale que la justice.
Non, mais qui se poseront au moins la question, je pense. Moi, je vois les conversations que ça a suscité dans les rédactions et autres. Je trouve que, pour une fois, on peut parler de ces choses-là. Et au bout du bout, ce n'est pas simplement une petite moquerie qui s'ensuit.
Fatima Tawan, puisque vous avez le micro, vous le gardez. Vous avez lu le livre d'une voisine, Rokhaya Diallo, journaliste, essayiste. « La France, tu l'aimes ou tu la fermes » aux éditions textuelles. Ce sont des textes qui abordent le féminisme, l'antiracisme et le voile, justement. Rokhaya Diallo a d'ailleurs signé une tribune de 90 personnalités à Emmanuel Macron. « Monsieur le Président, dites stop à la haine contre les musulmans de France. » Alors que vous a inspiré le livre de Rokhaya Diallo, Fatima Tawan.
Oui, alors l'avantage de l'anthologie, c'est qu'il permet de faire le tour de cette si controversée Rokhaya Diallo, donc un petit florilège du féminisme, le racisme, mais aussi sur l'état du voile, les sparadraps et les violences policières. Donc tout y passe. Le féminisme qui se dit universaliste, auquel elle reproche d'être ethnocentré, européen, blanc et capitaliste. Elle préfère être intersectionnelle, c'est un terme qui a été inventé par la féministe afro-américaine Kimberlé Crenshaw pour désigner les personnes qui subissent plusieurs discriminations simultanément. Donc Rokhaya est donc afro-féministe. Pour elle, le racisme n'est ni moral ni individuel, mais politique. Le racisme, c'est le préjugé et la position de pouvoir. Si vous avez que le préjugé, ce n'est pas du racisme. Ça peut être de la xénophobie, mais ce n'est pas du racisme. Vous ne pouvez pas avoir l'un sans l'autre, car le racisme, c'est d'abord un système, d'où le racisme d'État, ce qui lui a valu de graves attaques dans l'espace médiatique. Elle dit qu'il existe du racisme au sein de la police, de la justice, de l'éducation nationale, et que c'est ça qu'il faut gérer.
Alors, c'était une grosse polémique, ce racisme d'État. Certains disent qu'il serait plus juste d'évoquer le racisme au sein de l'État, une formulation qu'elle accepte aussi, parce que je l'ai entendu le dire ainsi sur des médias. Et histoire de continuer de jeter de l'huile sur le feu, le voile est un autre sujet aussi qu'elle aborde.
Absolument. Et sur le voile, elle est pro-choix ou pro-choice, si vous voulez, comme disent les anglo-saxons. C'est-à-dire, elle est pour la liberté de chaque femme à choisir comment elle souhaite se vêtir. Pour elle, le voile est volontaire. Le voile volontaire d'une femme musulmane en France ne peut et ne doit pas être perçu de la même façon qu'un voile subi par une afghane, par la burqa en Afghanistan. Ce n'est pas la même chose.
Vous avez aussi pointé, Fatima Tawan, un angle mort dans les réflexions de Rokhaya Diallo et dans son discours.
Oui, absolument. J'ai remarqué qu'elle n'abordait jamais frontalement, ou en tout cas pas de façon très explicite, l'islamisme radical de l'extrémisme islamiste. Et du coup, je l'ai interrogée là-dessus. C'est un angle mort qui est voulu, qu'elle assume. Elle refuse d'aller sur le terrain religieux. Son combat, il est d'abord et avant tout politique. Elle, ce qu'elle veut, c'est préférer s'attaquer aux puissants, estime que les débats au sein de l'islam doivent avoir lieu, et ils ont lieu déjà, donc elle les encourage parce que c'est des réflexions importantes, mais elle est déjà hors sentier. Et ce qui m'étonne en elle et ce qui m'intéresse, c'est qu'elle est elle sait au fond ce qu'on attend d'elle. Elle sait qu'elle pourrait, par une formule, un petit mot, chercher à être gentille, mais elle s'y refuse. Elle veut ni jouer les bonnes consciences, elle ne veut plus jouer les bonnes consciences de gauche, ni les idiotes utiles de droite.
Ouais. Et pour finir, Fatimata, vous l'avez comparée avec une autre journaliste militante britannique qui s'appelle Rainy Edo Lodge, qui a publié un bouquin dont on a beaucoup parlé.
Absolument.
Qui a été traduit en français, d'ailleurs,
absolument,
me semble-t-il.
Traduit en français, le racisme est un problème de blanc, où en anglais, elle dit « je ne veux plus parler, en fait. Pourquoi je ne vais plus parler de racisme avec les blancs ?» C'est un texte donc, d'une jeune femme engagée, plus jeune, elle y parle exactement avec les mêmes termes du racisme d'État, du privilège blanc, des violences policières, du fait que la liberté d'expression dont elle dit qu'ils seront clairement établis, elle dit ils seront enfin définis quand la liberté d'expression sera enfin définie quand une personne pourra parler librement de racisme sans être la cible des tentatives malveillantes visant à discréditer ses arguments. Mais étonnamment, les articles sont dithyrambiques à son égard sur la presse française. Ce qui veut dire surtout...
Et pas seulement dans la presse britannique, donc.
Pas seulement dans la presse britannique, où elle aurait reçu des prix, etc. Mais en France aussi...
Alors qu'il faut quand même bien préciser que la presse française est très dure avec Rokhaya Diallo.
Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. C'est deux combats. Alors, je pense que ça veut surtout dire qu'il est plus facile de juger, vous connaissez, la paille dans l'œil de l'autre que la poutre dans la sienne.
Voilà, ben on terminera avec l'évangile selon saint Matthieu. Amen. Merci beaucoup, Fatima Tawan. On va rester dans le chaudron des sujets qui fâchent ou qui lassent. Dans quelques instants, les tchatcheuses, vous avez le droit de vous étriper ou de bâiller, d'ailleurs, sur l'éternel débat du voile en France.
7 milliards de voisins, c'est sur RFI. Wake in the morning, stretch up and yawn and turn on my song and walk in my calling. All in, I'm falling, an awesome opus. Sat in a lotus, surrounded by roses. Could have wrote this a million ways, now feel like the greatest page. Yeah, in the wonder of the innocent. Vibe super high, so magnificent. No, never, never, never not fresh. I'm beautiful, so blessed. Feeling on the sunlight, rubbing on my skin tone. Dance in the wind and put it in my fabric. Wonderful, fantastic, got me feeling like magic, love, love. Feel good, sing it back, love, love. Get busy, vibrate, love, love. Challenge, single mom trying to get away from the violence. Scream out help and we get back silence. Yeah. Try so hard, but we keep wildin'. Like a dungeon dragon, walking with faith and we running with passion. Yeah. Slipping the faith and stay with the traction. Keeping the faith and leaving distractions.
C'est le rendez-vous des tchatcheuses chez 7 milliards de voisins. On est en compagnie de Eşegül Sert, journaliste turque, Fatima Tawan qui vient en voisine de France 24, qui présente entre autres La Grande Palabre, c'est la tchatche version France 24. Donc voisine sénégalaise, journaliste sénégalaise, Paola Martinez, journaliste chilienne, Ana Navarro-Pedro, journaliste portugaise. Faire dialoguer deux mères de famille sur la question du port du voile lors des sorties scolaires, c'est l'idée de nos reporters Charlie Dupiot et Alice Milo, loin des raccourcis, loin des caricatures, deux mamans, une qui est pour, l'autre contre, échangent leur point de vue dans une lettre sonore. L'intégralité de cette lettre est à écouter d'ailleurs sur le site du podcast Postscriptum, c'est terriblement difficile à dire, réalisé par les mêmes reporters, donc que vous retrouvez sur toutes les plateformes de téléchargement. On écoute un extrait de ce podcast et ensuite, bien sûr, on en débat avec les tchatcheuses.
Chère maman voilée, je ne souhaite pas que vous accompagniez mes enfants en sortie scolaire. Je tiens plus que tout au principe de laïcité. La religion doit rester aux portes de l'école. En tant que parents d'élèves, nous avons une obligation de neutralité pour ne pas influencer les enfants. Alors moi je suis Samia, je suis d'origine berbère. J'ai vécu toute ma jeunesse à Aubervilliers. J'ai quitté Aubervilliers pour m'installer dans l'Oise. Je suis née en France, ma grand-mère est arrivée, elle a vu une vingtaine d'années. Elle a passé son enfance en Kabylie, en Algérie. Et elle est arrivée en France, elle a ses 20 ans, avec son mari, en 1954. Je suis maman, j'ai deux enfants, un qui est en CM1 et le deuxième en CE1. Alors moi, je suis arrivée il y a 6 ans dans la commune de Noailles. On ne voyait pas de femmes voilées. Maintenant, depuis, on va dire, 2 ans, les femmes voilées arrivent dans la commune. 3-4 femmes voilées. Parce que c'est des jeunes du 93, du 95 qui viennent s'installer. Du fait que les logements soient moins chers dans l'Oise, viennent s'installer dans la région. Et leurs enfants sont scolarisés à l'école de Noailles. Il n'y a jamais eu, pour l'instant, de mamans voilées qui accompagnent leurs enfants en sortie scolaire à Noailles. Mais si ça devait se produire, que mon enfant soit accompagné par une maman voilée, mon enfant n'irait pas à cette sortie scolaire. Et j'expliquerai le motif à la directrice de l'établissement. Pour moi, c'est une forme de résistance, c'est un moyen de résister et je tiens à conserver la laïcité au sein de l'école. Pour moi, la sortie scolaire, c'est toujours le domaine de l'école. Pour aller au théâtre, pour aller au cinéma, même à la piscine, les enfants sont là pour apprendre. Donc, le signe religieux n'a pas sa place au sein de l'accompagnement scolaire. Que ça soit une maman voilée, un papa avec sa kippa, après, on n'est pas là. On ne sait pas ce qui se passe quand une femme voilée accompagne. Personne n'est là pour savoir s'il y a du prosélytisme ou pas. Qu'est-ce qui peut être dit? Personne ne sait. Ben, une maman, elle pourrait dire aux enfants, ben non, les garçons, vous séparez des filles, on ne donne pas la main aux petites filles. On ne mélange pas, par exemple, les garçons et les filles. Non, on n'est pas là, vous savez, hein. La religion, on la laisse aux portes de l'école.
Chère maman, que mon voile dérange, je pense que c'est à chacun de faire l'effort pour accepter l'autre. Et pour moi, c'est important de m'impliquer à la vie scolaire de mes enfants et de pouvoir les accompagner avec leurs camarades de classe. En quoi je dérange en étant femme voilée qui veut accompagner les enfants en sortie?
Je suis Fatima, je suis maman de 3 adolescentes et j'ai la quarantaine. J'habite à Saint-Denis. Je suis née en Algérie, sur les littorales pas loin d'Alger. J'ai grandi là-bas jusqu'à l'âge de 26 ans. Mais comment la prof, elle peut dire à ma fille, non, ta mère, elle ne pourra pas nous accompagner parce qu'elle est voilée? Comment peut-on justifier ça auprès des enfants eux-mêmes? Est-ce que ce n'est pas aussi violent, quoi? Pour l'enfant, il va vivre comment, cet enfant-là? Il va voir les choses comment? Sa mère, elle est bizarre ou elle n'est pas acceptée? Elle n'est pas normale? Et surtout que, je vous ai dit, on est à Saint-Denis, la communauté, elle est très, très, très mixte. Il y a beaucoup de femmes voilées. On nous demande de nous intégrer, on veut apporter un peu notre participation quelque part. Et du coup, là, abîme. surprise. Mais... Et puis à l'époque, on avait une super directrice qui disait, mais j'hallucine, c'est quoi ça? Mais moi, j'ai que des femmes voilées, elles sont volontaires, elles sont là, elles m'aident. Et pourquoi j'irais refuser, dire non à ces mamans-là pour me retrouver à chercher qui d'autre peut faire ça? Et du coup, les sorties, elles risquent d'être annulées, carrément. Les femmes voilées peuvent représenter la moitié des parents volontaires. Aux sorties, ça peut choquer. Je ne sais pas, ça choquera qui, mais
En tout cas, ici à Saint-Denis, ça ne joue pas. C'est limite n'importe quoi. Pour moi, franchement, là, on est en train de se battre sur le quartier, sur les problèmes de trafic de drogue, de violence qui est de plus en plus dans nos quartiers, dans nos écoles. Et eux, ils nous sortent le sujet. Les femmes voilées ne doivent pas accompagner les enfants sortis. Mais what else? Mais franchement, ça, c'est, je suis désolée d'en rigoler, mais... est-ce que c'est vraiment ça la problématique de l'école?
Et vous pouvez retrouver l'intégralité de cette lettre sonore donc sur le site, sur le podcast, les plateformes de podcast Postscriptum, le podcast de Charlie Dupiot et Alice Milo. Qui veut réagir à Nanavarro Pedro?
Je pense leurs propos posaient assez bien toute la problématique et surtout l'absurdité de cette problématique. Entre la maman qui va soupçonner qu'un fichu sur la tête va mener au prosélytisme et à l'apprentissage par les enfants d'attitudes excluantes, alors qu'elle a elle-même un discours excluant, d'exclure les femmes, les mamans qui portent un fichu, qui portent un foulard de l'espace public et du contact avec les enfants de l'école, à ces femmes qui disent « on a vraiment d'autres problèmes, pourquoi ça tombe toujours sur nous ?» parce qu'on porte un foulard, d'être présenté comme tous les maux de la société. Le problème, il est posé là, et il y a une sorte d'absurdité dans l'émotion qu'il y a en France, le pays du cartésianisme, faut-il le rappeler. C'est de la rationalité dans le discours et dans la pensée. Il y a une absurdité dans cette émotion, dans cette vague émotionnelle qui... emporte tout sur son passage, qui nous emmène à des situations très très dangereuses d'hostilité dans la société, qui m'étonne et qui me laisse perplexe.
Semaines de polémique,
Trois semaines de polémique
et c'est pas fini. Dans
cette et c'est pas fini. Et dans cette comment elle a pris mais comme un feu de paille. Et dans cette polémique, un ministre de l'éducation qui représente l'État et donc il doit représenter l'attitude neutre et bienveillante et protectrice de l'État vis-à-vis de tous les citoyens, de toutes les personnes qui séjournent, qui habitent dans cet espace-là. Eh bien. Un ministre qui lui-même condamne...
dit que ce n'est pas souhaitable que des mères voilées accompagnent des sorties
alors que
scolaires.
La loi, en portant un foulard, alors que la loi ne l'interdit pas.
La et loi donc... de 2004, elle interdit le port de signes religieux à l'école, pas à l'université d'ailleurs. Et ça avait d'ailleurs mis fin à des années de polémiques, parce que dans l'enceinte des collèges et des lycées, maintenant cette loi, elle est très bien comprise. Il n'y a pas de difficultés majeures qui sont signalées par les chefs d'établissement. Et voilà que ça reflambe sur la question des sorties scolaires. Ceci dit, depuis plusieurs années, il y a des affaires locales qui ponctuent la vie de l'école avec des plaintes en justice, notamment de mamans d'élèves qui disent « Pourquoi je ne peux pas aller en sortie scolaire voilée ou participer à un atelier au sein de l'école ?» Atelier pâtisserie, atelier de lecture, ça a été retoqué en justice.
Plainte en justice parce que justement la loi ne l'interdit pas. On a un ministre donc qui va donner une opinion qui est contraire à la loi et dans la foulée, on fait adopter en ce moment par le corps législatif,
attendez, c'est le Sénat pour l'instant et il y a la probabilité...
Le processus d'adoption, ou pas, mais d'étude d'une loi qui mettrait les propos hors
qui interdirait
la loi,
le port du voile pour les personnes qui accompagnent les sorties scolaires.
Oui, les propos ou la position hors la loi du ministre qui la mettrait désormais dans la loi s'il venait à être adopté. C'est quand même extraordinaire.
La probabilité que ce soit voté à l'Assemblée nationale est infime.
Vous vous rendez compte de la violence des propos qui existent autour du voile? Déjà, c'est de réduire une femme juste parce qu'elle porte un fichu foulard enflammé sur la tête. Ça, c'est déjà une chose qu'il faudra arrêter. Je pense que sinon, on participe en quelque sorte à cette éternisation de ce débat qui dure depuis 30 ans en France. Ça, c'est
Ceci dit, 1905. Le règlement de l'éducation nationale en septembre étend le principe de neutralité aux parents qui sont dans l'école. Ayşe Gül, certes, vous qui êtes journaliste turque, la laïcité en Turquie, il y a une longue histoire aussi.
C'est une obsession mutuelle que nous avons avec la Turquie et la France, le mot de laïcité.
Aujourd'hui, il y a d'autres problèmes plus urgents en Turquie aujourd'hui.
Je ne sais pas si c'est plus urgent. Ouais. Parce qu'en Turquie, moi j'ai vu dans les 17 dernières années, le sujet du voile prendre de plus en plus de place, qui a toujours pris, parce que c'était avant le gouvernement actuel de Erdogan, la femme voilée était rejetée.
C'était interdit à l'université.
C'était interdit au lycée. C'était interdit dans les fonctions publiques. Et donc, la femme était quand même ostracisée en portant le voile. Le problème que moi, je vois, et je suis très partagée, c'est que moi, ne portant pas de voile, moi étant turque, aujourd'hui, c'est le regard inverse que je reçois. C'est-à-dire que ce respect, cette acceptation qu'on m'a demandé et qu'on a fait passer par la loi en Turquie récemment, je suis regardée comme celle qui ne porte pas le voile. Et généralement, j'ai vu ça même dans le bus ou dans la rue, la femme qui le porte est plus respectée que celle qui ne le porte pas.
En Turquie.
En Turquie.
Fatima Tawan.
Ben, moi, je suis... ce débat, évidemment, je le suis depuis de nombreuses années, hein, étant d'ici et de là-bas, comme on dit, étant sénégalaise musulmane et française et parisienne. J'entends bien cette question, mais il y a plusieurs choses qui me frappent. D'abord, la sémantique. Tout à l'heure, on parlait de foulard, soit de voile. Et à dessein, les deux camps mélangent les deux termes. C'est-à-dire que soit ceux qui veulent parler du voile... intégrale disent à dessein juste le voile, et en fait ils veulent parler du voile intégral, et l'inverse, ceux qui veulent parler du hijab disent le voile alors qu'ils parlent du hijab. Donc en fait,
et ça inclut aussi maintenant des mères qui portent un simple turban ou un bonnet, hein.
Absolument. Donc le petit voile machin qu'on ferme, etc., qui est différent de la burqa ou du niqab, c'est des choses différentes. Mais passons sur ces détails. Le fond du sujet, finalement, c'est qu'il y a un voile qui est décrié parce que finalement, c'est ce qu'il y a derrière, ce que le voile dissimule, en fait. Donc, d'un côté, il y a le fait que le voile est pour des aspirations religieuses, et c'est ça que les gens craignent. Et dans ces aspirations religieuses, il y a la volonté, il y a sous-tendu, il y a l'aspect extrémiste, parce que finalement, quelqu'un, une femme qui fait la démarche de porter le voile... souvent, c'est dit que c'est un cheminement religieux. Donc, elle va au bout de son cheminement spirituel. Donc, ça veut dire que pour elle, c'est un aboutissement. C'est une question philosophique, religieuse, à l'intérieur même de la religion.
Est-ce que vraiment, aujourd'hui, c'est la religion qui est pointée ? Parce qu'Emmanuel Macron a dit le 24 octobre, le voile est utilisé dans certaines circonstances, certains quartiers, par certains, comme instrument de revendication et de séparatisme dans la République, qu'on appelle communautarisme. J'ai un problème avec une revendication qui devient politique. Ça, ce sont les mots d'Emmanuel Macron.
Mais évidemment, évidemment. Mais moi, je me dis que c'est intéressant de voir que aussi... Il y a autre chose, une dimension, moi, qui me fascine, c'est que dans, soi-disant, les quartiers, mais ce n'est pas que dans les quartiers, mais que ces femmes issues, ces jeunes filles, souvent d'ailleurs, hein, ces jeunes femmes issues de l'immigration, qui font partie de ce qu'on appelle cette espèce d'immense minorité invisible, choisissent un foulard, une identification qui les rende visibles.
Donc, il y a et qui leur permet d'aller en justice, d'ailleurs.
Et puis, qui les permet d'être vues là où on les ignore totalement. Et donc, il y a une revendication évidemment sociologique, culturelle qui est importante, que la France doit s'interroger. Et ça, c'est une question hautement française, finalement. Qu'est-ce qu'on fait de nos jeunes ? Qu'est-ce qu'on fait de toutes ces femmes qui sont mises de côté, qui ne sont pas visibilisées, justement, et qui sont cachées dans les quartiers et qui utilisent ce voile comme un moyen de revendication.
Paola Martinez s'est pas encore exprimée.
Mais pourquoi tout le remettre, justement, à la porte de voile ? C'est ce que vous disiez tout à l'heure dans votre chronique. Les pro-choix, il y a des jeunes filles notamment qui le font ça. Ils le font pas pour prosélytisme, parce que c'est un aboutissement, c'est un cheminement justement religieux. Moi, je sais, par exemple, j'ai beaucoup appris pour ma fille. Ma fille, elle fait des études d'arabe en ce moment. Et elle est sidérée, en fait, d'entendre ces débats qui est inépuisable, alors qu'à côté d'elle, il y a des jeunes filles qui, bien entendu, ils le portent par choix, parce qu'ils ont dans un aboutissement d'un cheminement spirituel et religieux, par respect.
Ce n'est pas interdit à l'université.
Et ce qui me dérange par des structures, en fait, c'est qu'encore une fois, on réduit la femme musulmane à la portée de voile. Il faut arrêter ça. D'une part, ils veulent que ces gens-là, ils s'intègrent dans la communauté, et en même temps, ils disent non, en fait, non, tu n'as pas d'intérêt, parce qu'il faut que tu enlèves le voile, sinon tu n'es pas accepté. C'est la laïcité, le principe de la laïcité, c'est la différence, l'égalité dans la différence. Et c'est là, ils sont en train de faire tout à fait le contraire, en pointant du doigt, en permanence, les femmes... En France, il y a 86 débats sur le voile, zéro femme voilée à la télé. Attention.
Finalement, vous dites, tout le monde se fait piéger dans l'histoire.
Tout le monde se fait piéger dans l'histoire.
Ouais. compris les femmes voilées.
Attention, parce que moi, je suis très dérangée par les par ce que les deux voisines tchatcheuses disent. Parce que vous êtes deux à dire que le foulard est l'aboutissement d'un chemin spirituel.
Non, c'est non, ce que c'est certaines pas ça. Revendiquent.
Oui, c'est ce qu'elles disent.
Oui,
c'est
pas ça. Mais est-ce que c'est le cas c'est, parce c'est que pas vous êtes deux à
non, 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 non.
C'est pas parce que
c'est ce qu'elles disent.
Attendez, laissez-moi m'exprimer. La censure, je la connais de loin quand elle arrive de près. C'est que il faut faire attention parce que pour ceux qui répètent ces propos font de ce foulard ou de ce voile, et je pense que c'est juste une question de mots, c'est rien d'autre, de quelque chose. Moi, je suis musulmane, je ne porte pas le voile. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un qui n'a pas fait son chemin spirituel?
Mais moi aussi, je suis musulmane et je ne porte pas le voile.
Voilà.
Donc, je ne suis pas du tout. Ce que je dis simplement, c'est que je reprends les mots de certaines femmes. Elles disent que c'est un cheminement spirituel. Dont acte, je reconnais que pour elles, c'est ça. On ne parle pas du cas de celles qui sont forcées.
Mais comment,
c'est
pas le cas. Mais comment on fait la différence
entre... Ils sont obligés de se voiler afin de pouvoir aller à l'école, afin de pouvoir sortir du patriarcat de la maison, etc.
Et comment on fait la différence entre le cheminement spirituel et une volonté de séparatisme social, par exemple?
Mais justement, je pense que ce n'est pas le rôle... De l'État,
du législateur.
Générale. Ça ne fonctionne pas par la loi. Je suis désolée, moi j'ai enquêté pour la première fois à l'époque, il y a une quinzaine d'années, ces deux jeunes filles de Creil, et même après Creil, ces deux jeunes filles d'Aubervilliers qui ont décidé de porter le voile. Quand je suis allée les voir, d'abord personne, aucun journaliste n'y était. Et en plus, elles m'expliquaient, elles, avec un père juif, une mère musulmane, qu'elles ont fait leur cheminement, elles étaient en crise mystique, hein, ces jeunes filles de 17 ans. Mais au final, ce que ça conduit, c'est qu'elles ont été exclues du système scolaire. Et donc, c'est ça, moi, que j'ai déploré là-dedans, parce que finalement, le dialogue ne pouvait plus avoir lieu.
Creil, ça a été le démarrage des polémiques, et qui a abouti au vote de la loi contre le port de signes religieux en 2004. Ça a été très médiatisé.
C'est-à-dire que si ce n'est pas la fonction de l'État, c'est la fonction de qui de faire ça? Parce que ça reste à la famille, finalement. Et la famille, dans la plupart du temps, venant de cet exemple de famille, ça reste à l'homme. Donc c'est l'homme qui choisit à nouveau, si ce n'est pas l'État, si cette fille de moins de 18 ans va porter le voile ou pas.
Anna Navarro-Pedro.
Faisons un petit pas de côté là, dans cette partie du débat, et constatons une chose aussi, c'est que dans cette affaire du débat sur le voile, qui est un débat excluant dans la plupart des déclarations des élites françaises, intellectuelles, politiques, sociétales. C'est un débat, c'est pour pointer du doigt, c'est pour dire soumettez-vous, alors qu'on lui dit enlevez le voile parce que c'est un signe de soumission, ils disent soumettez-vous à nous, dites-nous que vous êtes contre tous les éléments de l'islam radical, de l'islam qui accepte le patriarcat, qui accepte la loi religieuse avant la loi de l'État. Bon, petite fin de parenthèse. Dans tout cela, je n'ai jamais vu de débat sur les hommes qui vont à la mosquée portant des habits qui sont plus en conforme, une barbe, une calotte, une sorte de djellaba qui sont plus en conforme avec ce qui est considéré comme l'habit correct pour un homme pieux dans son aller à la mosquée, par exemple. Jamais on n'a pointé du doigt un homme.
Toujours les femmes. On est dans un espace
toujours
religieux.
Les femmes. Et n'oubliez pas, parce qu'on disait tout à l'heure,
c'est
ça
pas
vient...
une école là. Que c'est pas dans un. Dans un... C'est pas. Je comprends pas.
Non, non, mais non, on en parle. Je parle de
là, on parle pour tout ce qui est école.
Non, on ne parle pas de l'école. On parle du débat sur les voiles en général.
Oui, mais Anna, ce que vous donnez comme exemple, c'est quand vous allez à la mosquée.
Ce n'est pas le contexte.
Oui, mais quand on voit une femme dans la rue, on peut l'attaquer, on peut lui faire
tenir
des propos
attaquées.
Absolument.
Oui. On n'attaque jamais un homme qui sort de la mosquée, on va le voir.
Jamais.
C'est ce que
et on n'a jamais
dire.
Eu
d'accord.
aucun
bon.
Propos.
C'est
je voulais juste signaler autre chose. Qu'au moment, au moment de la loi de la séparation de l'Église et de l'État, en 1905, qui a résolu un grand débat français sur la religion, les femmes étaient soupçonnées d'être les agents des prêtres, d'être soumise aux prêtres. Et aujourd'hui, les femmes musulmanes sont soupçonnées d'être des agents d'une infiltration de la société française.
Mais alors, vous en faites une victimisation des femmes musulmanes?
Ah non, je ne fais pas une victimisation des femmes. Je constate que les attaques sont toujours dirigées contre les femmes et qu'il y a aussi
absolument
un problème
pas. Et l'attaque
genre...
contre une mosquée à Bayonne cette semaine, c'est contre une femme?
Non, ça... Alors, attendez, on
les deux
parlait
blessés,
du
c'est
voile...
Des femmes
Si vous voulez dire que l'attaque contre la mosquée est un point culminant de ce débat absolument haineux sur le voile qu'on a entendu, voilà, disait 85 débats en une semaine, pas une seule femme qui n'a pas pu exprimer son point de vue dans la presse, dans la société française, dans les télévisions françaises, c'est vrai.
Je considère que c'est culminant. En disant que c'est toujours la femme voilée qui a attaqué et jamais un homme. Une attaque contre une mosquée, ce n'est ni contre une femme, ni contre un homme, c'est contre une foi.
Tout à fait. Et c'est là toute la question, justement. Le voile a débouché sur la islamophobie. Et aussi, pareil, j'étais il y a deux semaines à la manifestation à République où les gens ils demandaient simplement laissez-nous vivre en paix dans ce pays. Qui est normalement, soi-disant, c'est un pays absolument hypocrite parce qu'accepte la différence, mais quand ça lui convient.
Oui, mais globalement, sur le fait qu'il y ait des communautés, enfin, ça fait doucement rigoler que le président Macron s'insurge contre le communautarisme ou que ça pourrait inspirer du communautarisme. Les gens, de fait, vivent séparés dans ce pays. Ce n'est pas parce qu'au fronton des mairies, c'est marqué liberté, égalité, fraternité, que dans les faits, dans les quartiers, les gens ne vivent pas séparés. Mmh. Donc, quand je disais que ce n'était pas le législatif et le répressif n'avaient pas toutes les clés, je pense que c'est à la société de prendre ces choses-là en main. Pas que l'hystérisation des débats sur des chaînes continues, voilà. C'est quand même à toutes les sociétés et à la société, c'est-à-dire que la place des musulmans en France, on parle de 5 millions, il doit y avoir des débats au sein de la communauté musulmane française. Il ne peut pas y avoir un CFCM conduit par des gens dont on voit clairement, sans être dans la caricature, ils ne sont pas forcément français. Il y a des Français musulmans dans ce pays qui ont voix au chapitre et qui doivent faire exprimer leur point de vue pour que les choses avancent. Et c'est un travail collectif de société. On ne va pas se leurrer. On ne va pas dire on n'est pas dans le communautarisme. Ce n'est pas le modèle anglo-saxon qui prévaut en France, certes. Sauf que dans les faits, quand on va dans les quartiers, c'est du communautarisme. Les gens vivent séparés.
Visuellement, en tout cas.
Visuellement et dans les faits, dans les écoles et partout. Et c'est ça la réalité en France.
Laurence Rossignol, sénatrice socialiste, a dit « Tant qu'un jeune avec un prénom musulman aura 5 fois moins de chances de trouver un travail qu'un jeune avec un prénom d'origine catholique, il ne sera pas possible de convaincre que la République est faite pour lui. »
Mais bien sûr. Ou 20 fois plus contrôlée qu'un blanc dans la rue. C'est pareil. C'est-à-dire que c'est des sujets qu'on doit aborder, mais ensemble, qu'on puisse se dire clairement les choses et que chacun ait sa voix au chapitre.
Est-ce que c'est un débat qui sert l'éducation nationale et finalement, est-ce que les mères voilées sont-elles un vrai problème pour l'école en France quand on voit les problématiques d'enseignants non remplacés, qui ne sont pas formés du tout, qu'on a une véritable misère éducative dans certains pays, dans certains départements,
évidemment,
dont le 93, la Seine-Saint-Denis, qui est aussi le département le plus jeune, le plus pauvre de France et avec la plus forte densité de jeunes issus de l'immigration. Est-ce que finalement, c'est un débat qui aujourd'hui a été largement instrumentalisé et qui empêche de voir, parce que les Français disent, dans un sondage, 78% des Français disent que la laïcité est menacée en France, mais quand on va plus loin dans le sondage, j'ai un récent sondage du JDD, la préoccupation arrive très très loin derrière la lutte contre le chômage, la santé, le pouvoir d'achat et la protection de l'environnement.
Évidemment.
Donc,
évidemment.
Mais avec cette histoire-là, deux réflexions. Une, en France, toujours, est considérée l'expression de l'identité musulmane comme tendant à la communautarisme. Ça, c'est une chose. L'islam est considéré toujours comme un problème déguisé par la peur de l'islam radical.
Il nous reste 4 secondes.
Et troisième chose, c'est une traque contre l'islam. Et c'est une belle, belle distraction avec toutes les réformes et des choses qui arrivent. Donc, je pense que c'est l'agenda présidentiel qui a mis ça.
Merci les tchatcheuses. Vous revenez quand vous voulez dans cette émission 7 milliards de voisins. À demain, les voisins, les voisines.
Tout à l'heure sur RFI.